fond, vous m'entendez? Ouais? Ça va, il fait chaud au fond là-bas? Quel moment fort de louange! Quel moment fort de louange! Et vous savez quoi? J'ai même pas envie de parler. C'est bête, hein? Allez, au revoir. Non. Des moments comme ça sont des moments privilégiés. Des moments comme ça sont des moments privilégiés. Vous savez pourquoi? Parce que la présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là tout le temps, bien évidemment, on l'a dans notre cœur. Mais des moments comme des moments de louange, comme on a eu ce matin, ça a été fort. Et comme le disait tout à l'heure Christiane, et comme vous avez pu vivre ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent qu'on a parlé de la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y en a qui ont vécu cette gloire de Dieu? Est-ce qu'ils veulent la vivre aussi? Est-ce que vous êtes ce matin présent là, physiquement devant Dieu à dire « Seigneur, moi je veux voir ta gloire de Dieu ». C'est dur pour moi, je ne vous cache pas que c'est dur pour moi de prêcher après une prédication comme on a eu la semaine dernière. Parce que, je ne vais pas dire que le niveau était haut, ce n'est pas une question de niveau. Mais l'onction de Dieu était tellement présente et palpable qu'on devrait maintenant être comme des, vous savez, des têtes chercheuses. On devrait être des têtes chercheuses à rechercher ou à vouloir ou à aspirer à voir la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je viens de dire là, j'en ai pas un qui m'a dit amen? On devrait être des têtes chercheuses à dire « Seigneur, montre-nous ta gloire ». Et ce matin, on l'a chanté. On l'a chanté, on l'a chanté, on l'a rechanté. Et Christiane, elle a donné mon prêche ce matin. Donc, ce n'est même pas la peine que je prêche. Eh bien, si, je vais le faire quand même. Parce que ça va être de la redite et on a besoin de redite. On a besoin d'entendre ce que Dieu a à nous dire. Réunis en ce lieu, rassemblés en ton nom, Dieu, nous t'invoquons. Que ta gloire descende dans nos cœurs, alors ta gloire descend, nos cœurs sont embrasés par ta vérité. Vous l'avez chanté ça ce matin? Vous l'avez chanté ça ce matin? Et là la foule répond. Le sujet de nos chants, la raison de nos vies, que les cieux se révèlent, nous voulons te voir, que les écluses libèrent un torrent puissant coulant de ton cœur et qui envahit notre louange. Nous sommes dans ta présence, le visage rayonnant, les yeux fixés sur toi. Tu viens dans la nuée te mettre à nos côtés, tu enlèves le voile. Tu enlèves le voile. Tu transformes à l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi. Quand dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable. Et j'en passe et des meilleurs. À ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent. Tout ça, c'est la gloire de Dieu. Toutes ces paroles qu'on a chantées ce matin, c'est la gloire de Dieu. Toutes ces paroles, on doit les mastiquer. On doit les mastiquer, les avaler, les digérer, les ruminer, les régurgiter, les remâcher. Comme les vaches. Parce que Dieu veut montrer sa gloire. Ce matin, je vais prêcher sur une expression du cinéma. Vous savez que j'aime bien le cinéma. Au capitaine, mon capitaine. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça? Au capitaine, mon capitaine. C'est dans quel film? Ouais, je l'ai entendu. Le cercle des poètes disparus. Au capitaine, mon capitaine. Et en fait, ce que je vais faire d'abord et en toute chose, c'est qu'il y a à peu près un mois et demi, j'ai reçu ce prêche. J'étais dans ma voiture et puis j'ai entendu une chanson à la radio de Claudio Capeo. Vous connaissez Claudio Capeo? Et il chante en ce moment une chanson qui m'a marqué. D'habitude, j'aime bien entendre la musique. J'écoute les instruments qui sont derrière, les arrangements, etc. J'écoute un peu les paroles, bien évidemment, mais c'est surtout là. Et là, c'est surtout les paroles qui m'ont marqué. Parce qu'en ce moment, Claudio Capeo chante une chanson qui s'appelle « Capitaine, capitaine ». Il faut savoir que Claudio Capeo a eu un passé assez, pas triste, mais il vient de loin, ce gars-là. « Sans personne, sans repère, sans boussole, solitaire, je pensais au revoir les pieds sur terre. mais j'ai le mal de mer. Ici, tout me pompe de l'air. J'étouffe, j'ai besoin d'air. Oui, changer d'atmosphère. Mais dites-moi, comment faire ? Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi, j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi, j'écrirai, il le dit une deuxième fois, plus haut, il faudra bien nous élever. Plus haut, le temps d'un instant s'élever. J'aime ces paroles. C'est vrai qu'au début, on a tendance à se dire, bah, c'est un petit peu triste. Il dit que tout le pompe l'air, machin. Mais le refrain, il dit, capitaine, mon capitaine, t'es là pour me guider. Et ça, ça devrait être la prière de chacun ce matin. Et c'est pour ça que le thème de mon prêche ce matin, c'est capitaine, mon capitaine. J'aurais pu mettre un autre grade, peu importe. Mais l'expression capitaine, c'est tout simplement parce que j'ai pris l'image du bateau. Et quand on prend le plus haut gradé sur un bateau, alors il y a le commandant du navire, bien évidemment, mais souvent on parle du capitaine. Dans les actes de piraterie, on parle de capitaine. Vous savez, tout ce qui est pirate, etc., on parle de capitaine. Quand on parle de bateau, on parle de capitaine. Et c'est là où je veux en venir. C'est que, qui est le capitaine de ta vie ? Qui est le capitaine de ta vie ? J'ai le privilège ce matin, c'est de pouvoir prêcher pour le dernier dimanche de l'année. Peu importe, c'est pas mal, ouais, mais c'est un dimanche comme un autre. Par contre, nous sommes tous guidés par des traditions. Ouais. Et les traditions sont là pour nous montrer que dimanche après dimanche, eh bien, on vit une vie de tradition parce que des fois, il y a dans l'année des ponctuations dans l'année. Alors bien évidemment, il y a des fêtes qui sont importantes à vivre et à se remémorer, comme Pâques, comme la Pentecôte, pour Noël, pour le gros bonhomme rouge. Et pourtant, le monde est en train de nous donner une image de nos fêtes qui nous guide vers des traditions, vers des habitudes qui ne sont pas bonnes par rapport à la Bible. Et c'est pour ça que quand on dit « capitaine, mon capitaine », on aurait tendance à dire que Dieu est au contrôle de tout. Parce que Dieu veut contrôler tout. Dieu souhaite que nous puissions être contrôlés dans tous les moments de notre vie, à tous les instants, sur toutes les décisions, sur toutes les directions qu'on doit prendre. Dieu souhaite ça. Dieu souhaite pouvoir prendre la barre que j'ai mise sur cette photo-là et prendre la barre de ta vie. Et pourtant, et c'est là où je vais en venir par rapport à ma conclusion tout à l'heure, c'est que vous savez, on aime bien, quand c'est la nouvelle année, on aime bien prendre des décisions, on aime bien faire des vœux. Vous savez, faire ses vœux, se dire on va prendre des résolutions. Ça va, merci, vous m'avez aidé. Des résolutions. Et généralement, ces résolutions, elles durent à peu près 3/4 d'heure. Il y a ceux qui aimeraient bien trouver un nouveau job, qui aimeraient trouver une femme. Je n'ai pas dit une nouvelle femme. Ou un mari. Il y a ceux, et je ne vais pas les pointer du doigt, qui aimeraient perdre du poids. Premier qui se marre, je sors. Ça fait partie des résolutions. Ça fait partie des résolutions. Et pourtant, lorsqu'on arrive comme ça sur un dernier dimanche d'année, on devrait avoir des résolutions qui sont, on va dire, je vais dire plus élevées que ça. Bien plus élevées que ça. Parce que je pense que 2019 a eu une très belle conclusion. Une très belle conclusion dans ces 4 derniers dimanches où on a entendu parler de la gloire de Dieu. Et c'est là où j'ai envie de faire des vœux pour chacun d'entre vous, là, ce matin, et pouvoir dire que nos vœux pour 2020, ça va être de connaître la gloire de Dieu. Non seulement la connaître, mais la vivre. Vivre la gloire de Dieu. On va s'enorgueillir un petit peu, allez. On pourra dire le phare, en ce moment, il vive la gloire de Dieu. Et moi, je dirais amen. Pas pour dire que le phare est meilleur que d'autres, c'est pas ça. Bien au contraire. On est là pour transférer ou transmettre quelque chose, pour faire goûter à ce que l'on vit. Et d'autres églises vivent des choses merveilleuses. Et tant mieux, à la limite. Parce que c'est ça, le monde chrétien. C'est de pouvoir vivre à chacun et de pouvoir grandir ensemble spirituellement et de pouvoir de plus en plus connaître et vivre la gloire de Dieu. Et pour ça, il faut qu'on puisse dire, Seigneur, capitaine. Ô capitaine, mon capitaine. Moi, je vous cache pas que je suis à la fois perturbé mais excité. Ma perturbation, elle est dans le bon sens du terme. Parce que j'ai bu, littéralement, la prédication d'Alex la semaine dernière. Et je dis pas ça pour le glorifier, c'est pas... Mais il y avait quelque chose sur lui, il y avait une onction sur lui. Et dans l'équipe pastorale, on s'est vu après, et en l'occurrence, Thierry est venu me voir, il m'a dit « Fred, c'est pas possible, on peut pas laisser une prédication comme ça passer et que ce soit juste une prédication. » Et je lui ai dit « Mais non, c'est vrai. » Et on avait ressenti la même chose, Thierry et moi. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que l'on puisse rentrer dans cette reconnaissance à Dieu. La semaine dernière, ça a été ça. La semaine d'avant, on a eu un culte de reconnaissance. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, du culte de reconnaissance, on a chanté et on s'est réjoui de voir la famille Nosek qui était là pour pouvoir avoir de la reconnaissance envers Dieu pour la guérison d'un cancer. Wow! Aujourd'hui, le monde donne de façon négative et il faut arrêter de penser que c'est Dieu qui accepte tout parce que Dieu n'est pas au contrôle de tout. Des fois, vous avez des personnes qui sont atteintes d'un cancer et il y en a certains qui disent « Mais pourquoi Dieu fait ça ?» Mais ce n'est pas Dieu. Par contre, quand la guérison est là, Dieu donne la guérison. Il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu n'est pas au contrôle de tout. Dieu n'est pas le capitaine de tout. Dieu doit prendre le contrôle de votre vie dans le bon sens du terme. On va prendre un premier verset. C'est le verset le plus lu en 2019 sur l'application YouVersion. YouVersion. Dis donc. J'accepte pas qu'on me reprenne. YouVersion. Regardez ça. Et ça, c'est révélateur de la société d'aujourd'hui. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Philippiens 4, 6. C'est le verset le plus lu sur une application biblique cette année. Est-ce que je suis le seul à croire que ce verset-là, le fait qu'il soit le plus lu, soit pas révélateur de quelque chose derrière? Parce que le monde est en train de nous donner un exemple qui n'est pas bon. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et ce verset est là, il est typique pour nous dire, ne vous inquiétez de rien. Dieu vous dit ce matin, ne vous inquiétez de rien. On va attaquer une nouvelle année, soit. Même si c'est un dimanche comme un autre, c'est le dernier de 2019, au revoir 2019, bonjour 2020, on change de décennie. On change de décennie. Mais moi, je me souviens aussi de l'année 2000. Alors, certains n'étaient pas nés. Vous savez, en 2000, où on avait peur du bug informatique. On pensait, oui, qu'on allait avoir des voitures volantes en 2000. On pensait qu'on allait aller sur les autres planètes. Pourtant, on est bien ici. On pensait plein de choses. On pensait qu'on allait vivre avec des martiens, comme Star Wars, oui, des monstres un peu partout, etc. Et pourtant, regardez, aujourd'hui, on est là. On est là et on continue. Alors évidemment, il y a eu une évolution quand on voit tous les smartphones, quand on voit toute la domotique, quand on voit les voitures, maintenant, ce qu'elles sont devenues par rapport à ce qu'on pouvait conduire. Je parle comme un vieux. Je suis pas si vieux. J'ai que 32 ans. Bon, d'accord, un petit peu plus. Mais regardez, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. En fait, supplication, ça veut dire prière. Mais des supplications, c'est Seigneur, je t'en supplie. J'ai besoin que tu puisses bénir ma vie. J'ai besoin d'une Ferrari. Non, j'ai besoin, Seigneur. On a des besoins, on a tous des besoins. Et c'est pour ça que commencer une nouvelle année, ça a forcément, pour chacun de nous, un objectif. On est tous là dans les starting blocks à se dire, ah bah pourvu que 2019 passe, que je l'oublie parce que certains ont eu une mauvaise année. Regardez, aujourd'hui, on a par exemple Ève qui traverse une épreuve. Et donc, je pense qu'elle va se dire, et moi je l'ai vécu il y a une petite dizaine d'années, parce que pendant les fêtes aussi, j'ai perdu ma sœur comme ça. Et ça a été une année, c'est des moments difficiles. Mais ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et ce qui est bien dans ce verset, c'est la dernière phrase, dans une attitude de reconnaissance. Ne soyons pas négligents, parce que dans tout moment, qu'il soit dur ou qu'il soit moins difficile, qu'il soit même heureux, Dieu est là, Dieu est là. Et Dieu permet à ce que l'on puisse grandir, à ce que l'on puisse apprendre quelque chose. Mais n'allons pas dire que parce qu'on est malade, que c'est la volonté de Dieu. Ou parce qu'on perd un job, que c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'est pas là pour vous induire, vous envoyer dans le péché pour pouvoir vous bénir. Dieu ne pêche pas, il n'est pas là pour ça. Quand je parle d'un péché, la maladie n'est pas un péché, bien évidemment. Mais bon, bref, je ne vais pas m'engluer là. Mais perdre un job, ce n'est pas non plus un péché. Mais Dieu va toujours se révéler dans quelque chose de négatif. Parce que quand on a quelque chose de négatif qui nous touche nos vies, souvent c'est le diable qui est là. On continue sur un deuxième verset. Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Quand on lit des versets comme ça dans la Bible, où à chaque fois on nous demande de ne pas nous effrayer, de ne pas nous inquiéter, moi j'ai tendance à penser que l'inquiétude et la frayeur ou la peur, c'est un péché. Parce que si Dieu nous dit de ne pas le faire et qu'on le fait, c'est une désobéissance à Dieu. Donc, quelque part, une désobéissance, c'est un péché. Et le fait d'avoir peur, ce n'est pas la volonté de Dieu. Au contraire, Dieu est là pour nous donner un avenir heureux. Il veut ça. Et quand on lit ça, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas, c'est Jésus qui parle, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Et à chaque fois dans un verset, il y a un moment de ce verset ou un passage de ce verset qui est un petit peu plus, enfin, je ne vais pas dire un peu plus fort, mais qui a une consonance ou qui va sonner différemment ou qui va donner une impulsion à ce verset. Regardez, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Ça veut dire que malgré tout, le monde donne la paix ? Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Je vous laisse ma paix. C'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas celle du monde. Quand la parole nous dit que vous êtes dans ce monde, que vous vivez dans ce monde, mais que vous n'êtes pas de ce monde, c'est que forcément, il y a quelque chose, il y a un niveau au-dessus. Et le niveau au-dessus, c'est celui de notre relation avec Dieu. Parce que Dieu est là pour vous donner la paix. Il est là pour pouvoir vous consoler. Il y a des cœurs à consoler ce matin. On l'a encore entendu tout à l'heure. Des paroles, celles que Johan a données. Il y a des cœurs à consoler ce matin. Parce que l'inquiétude, elle est humaine. Elle n'est pas spirituelle, mais elle est humaine. L'inquiétude est là. Par contre, d'un point de vue spirituel, si on se met sur l'aspect spirituel, eh bien, on doit être dans cette espérance, dans l'espérance à Jésus, dans l'espérance à Dieu, dans ce qu'il a à nous donner de meilleur. Parce qu'il nous dit bien, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et je ne vous la donne pas comme le monde vous donne. Parce que tout ce que vous donne le monde, c'est éphémère. C'est quelque chose qui est ponctuel. Et forcément, le monde va vous réclamer quelque chose. Par contre, avec Dieu, c'est un cadeau. Alex a commencé sa prédication la semaine dernière avec ce gros cadeau qui était là. Ce gros cadeau, vas-y, prends-le, il est pour toi. Il est pour toi. Et dans ce cadeau, il y a la paix de Jésus, entre autres. Et la paix de Jésus, elle est là et c'est à toi de la prendre. Parce que cette nouvelle année qui commence, si elle te cause de l'inquiétude, c'est que ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Parce que Dieu veut le meilleur. Il veut te combler, il veut te donner quelque chose de bien plus fort que ça. Bien plus fort que l'inquiétude. On continue, Cassandre ? 2 Corinthiens 12, 9, c'est Paul qui parle. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Est-ce que ça veut dire que c'est quand je suis faible que Dieu me montre sa force ? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. » Donc là, Paul parle sur la deuxième partie du verset. « Je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et c'est là où Dieu nous attend. C'est le virage. C'est là le virage. Dieu veut que l'on puisse être conscient que c'est lui notre capitaine. Je me souviens quand j'étais plus jeune, et pour beaucoup vous le savez, j'ai perdu mon père tôt, à l'âge de 10 ans. Et à partir de là, eh ben, je me suis fait tout seul en tant qu'homme. Je n'ai pas eu cet exemple masculin. Et donc j'étais un petit peu, je ne veux pas dire que j'étais laissé à l'abandon, ma mère m'a donné beaucoup d'amour. Mais elle avait ce principe d'éducation où voilà, c'était pas débrouille-toi, mais presque. Et donc j'ai grandi et je me suis fait tout seul. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui est venu me donner une parole de Dieu, qui m'a dit, il faut absolument maintenant, j'avais donné ma vie à Dieu, il faut absolument que tu lâches le volant et que tu laisses le volant à Dieu. Parce que j'avais tendance à vouloir faire en sorte que ma vie soit contrôlée par moi. Tout ce que je faisais dans ma vie, c'était moi qui conduisais. J'avais Dieu avec moi dans ma vie, oui, mais il était sur le siège passager, à côté. Parce que c'est moi qui tenais le volant. C'est moi qui dirigeais ma vie, pas Dieu. Et un jour, j'ai eu cette parole, et je le faisais inconsciemment, bien évidemment. Comme beaucoup ici, on peut très bien faire des choses inconsciemment. Où on est dans cette volonté de vouloir faire la volonté de Dieu, mais on ne laisse pas Dieu agir. Et pourtant, Dieu nous dit, là, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Dans les moments de faiblesse, lâche le volant et dis, Seigneur, vas-y. Alors je dis, bien évidemment, mais aujourd'hui on a des voitures qui sont hyper modernes. J'en ai essayé une dernièrement. Je lâchais le volant, elle déviait, et puis hop, le volant tournait tout seul, elle revenait dans la voie. Eh bien, Dieu va faire ça pour toi. Il va prendre le volant, il va te ramener tout le temps dans la voie. Il va te ramener dans la voie parce que c'est lui ton capitaine. C'est à lui d'être le capitaine. Ô capitaine, mon capitaine. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Ouais? Est-ce que ça vous parle? Comment est-ce que vous allez aborder cette nouvelle année? Lâchons les traditions. Ah oui, on va tous venir se voir le 31 à 0h. Ou à 59, on va commencer à se préparer. Et dès qu'on entendra le ding, bonne année! Et une demi-heure après, tu m'as souhaité ma bonne année, toi? Ah non, j'ai oublié. Ah ouais, c'est vrai. Bonne année. Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors bien évidemment, c'est une parole gentille, on te souhaite quelque chose. Ça sort du cœur, il y en a pour qui ça va être du cœur. Et là-dessus, j'ai rien à dire. Mais c'est une tradition. Bonne année, bonne santé. Bonne année, bonne santé. Et vous verrez que ma conclusion, eh bien, je vais faire différemment. On va faire différemment. On va faire différemment. Parce que moi, je veux que 2020, je vais lâcher le volant. C'est Dieu qui va le prendre. Mais je souhaiterais que Dieu puisse nous guider, nous mener dans des plans qui sont encore plus grands et plus glorieux que ce qu'on a vécu en 2019. Et on a déjà vécu des choses grandes en 2019. Alors imaginez 2020. Juste pour mémoire, on va se remémorer 2-3 trucs. Mais durant 2019, on a eu bien évidemment ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des enseignements sur la gloire de Dieu. Et c'est top. Franchement, c'est... Waouh, j'ai hâte. J'ai tellement hâte de voir ça. Mais on a aussi Antoine qui a reçu qu'il fallait élever le niveau. Ça va dans le même sens. Élever le niveau. Eh bien, on va élever le niveau. Moi, j'aurais envie... que, par exemple, on a eu des moments, vous voyez, on a des moments glorieux de louange le dimanche matin, quand on arrive, on vit des moments forts. Mais ce que je souhaite, moi, c'est que là, on est le quoi? On est le 28, 29? 29, 30, 31, 29. Eh bien, que le 29 décembre, si ce ne sera pas un dimanche, mais le prochain, le dernier dimanche de l'année 2020, que la louange ne soit pas la même, mais qu'elle ait grimpé encore d'un niveau, ou de deux niveaux, ou de trois niveaux. Et qu'on puisse vivre la présence de Dieu encore plus et encore plus et encore plus dans nos moments de louange. Je veux voir des guérisons pendant la louange. Je veux voir la présence de Dieu pendant la louange. Je veux sentir des cœurs qui se réparent, des cœurs qui sont réconfortés, des cœurs qui sont remplis de joie. Je veux voir ça encore plus et encore plus. On l'a vécu déjà, mais on le vivra encore plus. Et avec ça, je vais être prophétique. Christiane, tout à l'heure, ce qu'elle a dit, elle a commencé sa louange en disant « Fred, Dieu va te guider dans des endroits que tu ne soupçonnes pas », quelque chose dans ce style. Je l'ai pris comme une prophétie. Vous savez pourquoi ? Parce que je l'ai reçue en 2019, cette prophétie. Ce qu'elle a dit, Christiane, c'était prophétique. On ne se doute pas des fois des paroles comme ça. On va dire un petit truc, et en fait, c'est Dieu qui parle. Et je l'ai reçu plusieurs fois en 2019. Et donc, je veux m'attendre à ça. Seigneur, je m'attends à ce que ta gloire soit dans ma vie. Parce que c'est ça d'abord. Il faut que la gloire de Dieu soit d'abord dans vos cœurs pour que l'on puisse la vivre collectivement. Vous savez, les gens qui vous disent « Oh, j'ai tellement hâte que le réveil arrive. » Ben, réveille ton cœur. Réveille-toi. Vis une présence avec Dieu, vis une relation avec Dieu encore plus forte et tu verras que le réveil va commencer par ton cœur. Est-ce que tu vas dégouliner de toi, transpirer de toi, ça va toucher ton voisin et ton voisin et ton voisin, et c'est là où le réveil va arriver. Moi, je ne crois pas à cette notion surnaturelle où Dieu va envoyer une vague de réveil. Non, c'est notre relation avec Dieu qui va faire qu'on puisse vivre sa gloire. Avant de pouvoir aspirer à des miracles, à quoi que ce soit, il faut vivre une relation avec Dieu. Il faut que Seigneur, ô capitaine, mon capitaine, tu es le capitaine de ma vie, le capitaine de mon navire. Ça va ? Allez, on va lire un passage un petit peu plus important, dans la longueur, j'entends. Ah oui, ma grâce, oui, j'ai bien aimé cette définition. Ça vient de charis, du grec charis, grâce. La condition spirituelle de quelqu'un gouverné par le pouvoir de la grâce divine. Waouh, waouh, waouh. Gouverné. Gouverné. Dans un bateau, il n'y a pas un gouvernail. Gouverné. La condition spirituelle de quelqu'un gouverné par le pouvoir de la grâce divine, de la gloire de Dieu. C'est ça la grâce. Ma grâce te suffit. Vis ma gloire parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et quand Paul dit « Je me glorifierai de mes plus de mes faiblesses maintenant que de mes forces », il le dit juste avant, mais il a une épine dans sa chair. Il dit « Le diable a mis une épine dans ma chair et je demande à Dieu de pouvoir, à ce qu'il se recule de moi. » Et puis hop, il enquille avec ça et le Seigneur lui répond « Ton épine dans ta chair ?» Ma grâce te suffit. C'est-à-dire que Dieu a conscience de cette épine qu'il a dans sa chair et il lui dit, voilà, ma grâce te suffit. Vis ma présence, vis ma gloire. Et ton épine dans ta chair, j'en fais mon affaire. Vas-y Cassandre, suivant. Éphésiens 1, on va lire des versets 15 à 22. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre... Je vais prendre par ça, ça va être plus sympa. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il y a un nombre de trucs importants dans ce verset, c'est incroyable. Les mots, chaque mot est pesé et il est là pour avoir un impact dans ce verset, dans ce passage qui doit être pris dans nos vies pour pouvoir avoir un impact tellement fort pour que l'on puisse vivre la gloire de Dieu. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, notion de foi, et de votre charité, pour tous les saints. Est-ce que vous êtes saints ce matin? Est-ce que vous êtes des saints? Moi, la Saint-Frédéric, c'est le 18 juillet. On s'en fout. Parce que je suis saint. Je suis un saint. À partir du moment où j'accepte Jésus dans ma vie, je deviens saint. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Regardez rien que cette dernière phrase. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints ? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints ? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage ? Suivante, Cassandre. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force ? Dieu est fort ? Ça fait plusieurs fois qu'on lit dans les versets la puissance de Dieu, la force de Dieu. Il l'a déployée en Christ, donc cette force, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans la décennie à venir. On commence une nouvelle décennie et Dieu est en train de nous dire que sa force est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Ça veut dire que si tu es saint ce matin, tout ce qu'on vient de lire là, tu peux le proclamer dans ta vie parce que tu es au-dessus de tout ça. Il n'y a aucune raison pour que l'on ne vive pas la gloire de Dieu. La seule raison serait que l'on continue dans nos désobéissances. Vous voulez que je le redise ? Il n'y a aucune raison pour que l'on ne vive pas, selon la Bible, j'entends, mais il n'y a aucune raison pour que l'on ne vive pas la gloire de Dieu, si ce n'est par nos désobéissances. Parce que si on est désobéissant, eh bien, on s'éloigne de Dieu. Et que veut Dieu ? Dieu veut nous prendre dans ses bras. Il veut absolument que l'on puisse être plus proche pour pouvoir non seulement sentir son odeur, sentir ses bras autour de nous et pouvoir entendre sa voix pour que l'on puisse être au plus proche de lui. Est-ce que vous croyez à ça ? Moi, je le vois comme ça. C'est ça, la relation avec Dieu. La relation avec Dieu, c'est de s'approcher de lui, de s'approcher de lui, de s'approcher de lui, s'approcher de lui, tout le temps et tout le temps. On continue. Non seulement dans le siècle 1, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef, Jésus, suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Maman. Tout est dit. Tout est dit là. On nous dit que Jésus est le chef suprême de l'Église. C'est qui l'Église ? C'est vous, c'est moi, c'est nous. C'est nous l'Église. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. Et qu'est-ce qu'est l'Église ? C'est l'épouse de Christ. C'est ce que nous dit la Bible. On est là pour pouvoir louer Dieu, pouvoir être reconnaissant, avoir une relation avec lui, s'approcher de lui. Et alors, on vivra la gloire de Dieu. Et moi, c'est ce que je vous souhaite pour 2020. On va regarder une petite vidéo de 4 minutes, et je l'ai dit en préambule. Le cercle des poètes disparus. Et je vais remettre un contexte, parce que voilà, c'est pas le principe de la vidéo, peu importe. Mais on va dire que c'est un contexte. Il y a un professeur qui inculque des choses, qui enseigne des choses à des élèves. Et ces choses sont bonnes pour ces élèves, elles leur font du bien. Et puis, ça ne plaît pas au monde, on va dire que ça ne plaît pas au monde. Donc le lycée dans lequel ils sont, et ce professeur est viré et remplacé par quelqu'un qui essaie de leur enseigner des choses beaucoup plus traditionnelles, des choses beaucoup plus, on va dire, légalistes, si on reste dans un milieu comme le nôtre, spirituel. Et vous allez voir qu'il y a une rébellion de la part des élèves, parce qu'ils refusent, ils veulent garder le bon enseignement et pas celui que le monde pourrait donner. C'est comme ça que vous devez le prendre ce matin. Refusez l'enseignement que le monde peut nous donner et gardons un bon enseignement, c'est-à-dire celui de la parole de Dieu. Allons-y. 4 minutes, ça dure. Faut du son. Faut cliquer sur la vidéo, Cassie.
Entrez. Excusez-moi. Je viens chercher mes affaires personnelles. Dois-je revenir après la classe?
Non, prenez-les maintenant. Messieurs, ouvrez vos livres à la page 21 de l'introduction. Monsieur Cameron, lisez-nous le remarquable essai du docteur Pritchard intitulé « Comprendre la poésie ».
La page est malheureusement déchirée.
Empruntez le manuel de votre voisin.
Elles ont toutes été arrachées.
Toutes arrachées? Qu'est-ce que ça veut dire?
Bien, monsieur, qu'est-ce que...
Laissons cela. Lisez.
Comprendre la poésie par le docteur J. Evans Pritchard, professeur agrégé. Afin de bien comprendre la poésie, on doit d'abord se familiariser avec la métrique, les rimes et les figures de style. Et ensuite se poser deux questions. Un, le thème du poème a-t-il été traité avec art? Et deux, ce thème est-il important? La première question définit la perfection de l'œuvre et la seconde son importance. Une fois qu'on a répondu à ces questions, il est relativement aisé de jauger la valeur de l'ouvrage. Si l'on note la perfection du poème sur la ligne horizontale d'un graphique...
Monsieur Keating, son importance, on nous a tous obligés à signer. Il faut me croire, je mesure que c'est
oui,
vrai.
Oui, Todd, je vous crois.
Sortez, monsieur Keating.
Mais c'était pas sa
Veuillez
faute.
Veuillez vous asseoir, monsieur Anderson. Encore un seul mot et c'est l'expulsion. Ça s'applique à tout le monde. Sortez, monsieur Keating. J'ai dit sortez, monsieur Keating.
Mon capitaine.
Asseyez-vous, monsieur Anderson. Vous entendez? Asseyez-vous. Allons, assis. Dernier avertissement, Anderson. Quelle insolence. Est-ce que vous m'entendez?
Oh, capitaine, mon capitaine.
Monsieur Overstreet, je vous ordonne de vous asseoir. Asseyez-vous! Assis! Tous! Je vous ordonne de vous asseoir! Vous entendez? Sortez, monsieur Keating! Assis! Tous autant que vous êtes! Dernier avertissement!
Capitaine, mon capitaine. L'acte que font tous ces élèves à se lever comme ça sur la table, et c'est juste un parallèle. Ne prenez pas ça, ça n'a rien de spirituel, hein, ce passage de film. C'est juste imager mon propos, tout simplement. Mais serions-nous prêts ce matin à monter sur la table et à dire Jésus, au capitaine, mon capitaine, pour commencer cette nouvelle année? Au capitaine, mon capitaine. Seigneur, sois le capitaine de mon navire, sois le capitaine de ma vie. Parce qu'on a tellement de choses qui nous attendent là, demain, ou l'année prochaine. Dans 2 jours, c'est l'année prochaine. On a tellement de choses qui nous attendent. Dieu veut tellement de bonnes choses pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous. Et je vais finir cette prédication en vous souhaitant mes vœux, mais de cette façon-là. Psaume 61. Ô Dieu, écoute mes cris, Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu, ô capitaine, mon capitaine. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours aux jours du roi, que ses années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes vœux. Et vas-y, cassons la suivante. Vas-y, encore un coup, clique. Je ne vais pas vous souhaiter une bonne année. Je vais vous souhaiter les meilleurs vœux. Parce qu'on vient de les lire dans le psaume 61, les meilleurs vœux. Et c'est là où Dieu nous attend. C'est les vœux qu'on va souhaiter à notre frère ou à notre sœur, à notre voisin, voisine. C'est là où ça va porter une bénédiction. Et à nous d'être attentifs pour que nos vœux puissent être une bénédiction pour notre voisin ou notre voisine, pour notre frère, notre sœur, notre conjoint, conjointe. Pour que 2020 puisse partir sur une note de bénédiction. Une note de bénédiction avec pour objectif la gloire de Dieu. Avec pour objectif la gloire de Dieu. Je vais m'arrêter là. Je vais demander aux musiciens de venir.